It's Morning Edition from NPR News.
That cities and people housing.
France Inter, le 18-20.
Est-ce qu'il ne tient qu'à un fil ou va-t-il prouver une fois de plus qu'il a plus de vie qu'un chat ? Boris Johnson, le Premier ministre britannique, attend toujours le rapport qui dira s'il a participé à des fêtes interdites et surtout combien de ce rapport dépend peut-être son avenir politique. Et c'est toute l'Angleterre qui est suspendue à ses conclusions, on y vient tout de suite. Le bruit du monde est dans les pays baltes, les voisins les plus proches de ce rapport de force entre la Russie et l'Ukraine, qui là aussi ne tient peut-être qu'à un fil. Ces voisins-là voient le conflit potentiel d'un autre œil que nous, forcément, les Européens plus lointains. Et vous l'entendrez, le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Sébastien Legénie a trouvé un hôpital du Costa Rica visé par des anti-vax. Los Angeles, qui désormais interdit tout forage, et des caricatures retirées d'une expo Arafat en Cisjordanie. 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, et Angélique Boin, qui a lu un rapport sur les ingérences étrangères dans les élections démocratiques européennes, et ça fait froid dans le dos. 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four, et dans la guerre entre Neil Young et Spotify, qui a gagné d'après vous? C'est Jean-Marc qui vous racontera ça. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Dès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Anne-Elisabeth Moutet.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes éditorialiste au Daily Telegraph. Dans un tout petit instant, nous rejoindrons aussi Richard Place, le correspondant de France Inter à Londres. Je le disais, on attend toujours l'enquête interne menée par une femme qui s'appelle Sue Gray, qui est haut fonctionnaire britannique et qui doit dire quelles fêtes ont été organisées pendant les confinements au 10 Downing Street et surtout à quelles fêtes Boris Johnson a participé lui-même. Anne-Elisabeth Moutet, ça traîne quand même en longueur cette histoire, on fait durer le suspense. Pourquoi c'est si long? Est-ce qu'il y a une raison?
Alors, il y a plusieurs raisons, mais une des raisons qui est très importante, c'est qu'il y a aussi l'ouverture d'une enquête de police. Mmh. Or, si les résultats sortent au milieu de l'enquête de police, ça peut influer sur les résultats. Et donc, il y a une possibilité pour que ce soit même reculé, non pas de quelques jours, mais de plusieurs semaines, ce qui énerve absolument tout le monde, l'opposition, parce qu'elle dit, enfin, écoutez tout de même, et, les conservateurs, parce que eux-mêmes, ils en ont assez d'être sur le fil et de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut sanctionner ou pas, et passons à autre chose.
Et d'ailleurs, puisque vous nous parlez de cette enquête de police, Anne-Elisabeth Moutet, très concrètement, est-ce que ça veut dire qu'un policier peut rentrer dans le bureau de Boris Johnson et lui dire, bon alors, est-ce que oui ou non vous y étiez? Est-ce que ça peut se passer aussi directement que ça?
Avec un rendez-vous, un mandat,
alors certes,
enfin,
oui.
Dans les cadres de l'enquête, mais c'est absolument possible, oui, bien sûr.
Alors, avant d'entrer dans les détails, juste une chose quand même, Johnson n'est pas un scandale près, on peut pas dire que ça a été très tranquille depuis qu'il est là, depuis 2019, mais jusque-là, on a le sentiment que tout ça a glissé sur lui. Pourquoi, selon vous, cette fois-ci c'est plus grave et ça ne glisse pas et même ça accroche?
Alors, il y a plusieurs choses. Parce qu'en réalité, Johnson, si son job est vraiment en danger, c'est pas du tout du fait de l'opposition, qui se débrouille tout de même mieux, mais qui n'a absolument rien à faire jusqu'aux élections de 2024. C'est au sein de son propre parti. Et au sein de son propre parti, il a perdu 3 élections partielles coup sur coup, ce qui veut dire que sa qualité principale, qui consistait à gagner, et même gagner avec une énorme majorité, est en train de disparaître. Et alors, c'est là-dedans qu'il faut recadrer ce qu'on lui reproche maintenant. Et ce qu'on lui reproche sur ces fameuses soirées, alors il y a peut-être eu une soirée d'anniversaire, je ne suis pas Sue Gray, je ne peux pas affirmer. Il y a certainement eu des réunions dans le jardin de la résidence du Premier ministre où les gens avaient apporté du fromage et du vin. Et tout ceci se passait à un moment où il y avait un confinement dur. Ça s'est passé de manière assez différente de la France. Il y avait des réglementations qui étaient assez claires. C'était le nombre de gens avec qui vous êtes, combien de temps vous pouvez les voir ou pas les voir. Et tout ceci s'est passé avec des gens qui travaillaient déjà ensemble puisqu'ils étaient d'astreinte, c'est-à-dire s'ils n'étaient pas chez eux, comme des conducteurs de métro. Pour des raisons à la fois de sécurité et d'efficacité et de réactivité, le gouvernement britannique se réunissait toujours là. Alors pour celle qui s'est passée dans le jardin de Downing Street, il dit écoutez, on était à l'intérieur, on a fait à peu près la même chose à l'extérieur, sauf on n'était pas plus ou moins, on était de toute façon tous ensemble. Mais je suis pas sûre que ce soit quelque chose qu'on puisse entendre dans la mesure où, pendant ce temps-là, tout le monde respectait les réglementations, des gens restaient dans la rue devant les maisons de vieillesse dans lesquelles étaient leurs grands-parents, des familles étaient séparées, des personnes mouraient seules. Il y a eu le cas de la belle-mère d'un député conservateur qui a parlé à la Chambre Qui s'est arrêté parce qu'il n'arrivait pas à continuer tellement à cause de l'émotion. J'ai dit conservateur, je me suis trompée, c'est un parti allié des conservateurs, c'est le parti DUP d'Irlande du Nord. Donc tout ça, ça choque. C'est une loi pour certains et une autre loi pour d'autres.
Est-ce qu'on peut, Richard Place, j'en profite, je vous salue, bonsoir Richard.
Bonsoir.
Est-ce qu'on peut justement essayer de faire le tour, parce que ce qui compte, effectivement, c'est ce que nous dit Anne-Elisabeth Moutet, mais c'est surtout l'accumulation. Moi, si je regarde, parce que j'ai une liste que j'ai trouvé dans un journal anglais qui dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai compté 12, en fait, des fêtes ou pas fêtes. Enfin, ça commence à faire beaucoup, tout ça.
Oui, ça fait énormément. Et puis, en parlant d'accumulation, pour revenir sur ce qui fait que là, on a l'impression que c'est un peu la goutte de bière qui fait déborder la pinte, c'est qu'il y a eu beaucoup de problèmes avant aussi. Il y a eu ces trois élections partielles perdues, en particulier une où il est très responsable, Boris Johnson. Il a soutenu un député qui avait commis une faute, qui avait fait du lobbying en tant que député, en utilisant ses fonctions. Il aurait dû être suspendu. Boris Johnson a voulu passer ça sous le tapis. Résultat, ça a fait un scandale. Le député a dû démissionner, élection partielle et défaite des conservateurs dans un fief. Ça, c'est l'un des gros reproches qui lui a été fait aussi. Les fêtes, ça vient en plus avec aussi un pass sanitaire qu'il a fait voter en fin d'année contre la volonté d'une bonne partie de sa majorité. Pour ce qui est des fêtes elles-mêmes, alors si on prend la liste que j'ai établie, il y a peut-être pas tout, hein, mais le 20 mai 2020, Martin Reynolds, son assistant, qui envoie un mail général où il invite à profiter du beau temps et à prendre un verre en respectant les distances sociales dans le jardin ce soir. Le 19 juin, ça c'est la dernière qu'on a apprise, le 19 juin 2020, anniversaire surprise de Bojo organisé par sa femme. Il reste 10 minutes dans une pièce fermée avec une trentaine de personnes. Le 27 novembre 2020, pot de départ d'un assistant, Johnson prononce un discours. Il y a eu, paraît-il, selon le Daily Mirror, jusqu'à 50 personnes présentes. 15 décembre 2020, photo de Boris Johnson publiée dans le Guardian avec deux membres du personnel. Ils sont en visioconférence. Les deux employés portent des chapeaux de Noël. Ils sont un peu décorés, déguisés. Il s'agissait d'un quiz à distance pour détendre les personnels dont on dit qu'ils étaient en visioconférence. Le 18 décembre 2020, une fête à Downing Street. Premièrement, un démenti officiel. Sort alors une vidéo où l'on voit Allegra Stratton, la directrice de la com, dans la salle de conférence de presse, parler de cette fête réelle qui a vraiment eu lieu dans une fausse conférence de presse avec un collègue. Ils sont hilar. Elle finit par démissionner en larmes dans la foulée. Et le 16 avril 2021, c'est presque sans doute le truc le plus reproché, la veille des obsèques du prince Philippe, deux pots de départ avec une bonne partie du personnel, des gens sous, de l'alcool acheté à la supérette du coin et transporté dans des valises à roulettes sous le nez des policiers. Boris Johnson, a priori, n'était pas là ce soir-là.
Alors, juste rapidement, Richard, ce qui est remarquable, et on en rajoute une couche, c'est que en plus, il se défend très mal, en fait.
Très très mal. Dans un premier temps, il dément tout, catégoriquement. Puis ce qui est apparemment vrai pour certaines des soirées, il dit qu'il n'y était pas. Puis il reconnaît qu'il était à certaines et il s'excuse. Mais au passage, il dit qu'il ne le savait pas que c'était illégal. Il va même jusqu'à expliquer que personne ne l'a prévenu que ce qu'il faisait là ne respectait pas les règles. On parle du Premier ministre, donc les règles, c'est lui qui les fixe. Et puis, il y a des soutiens dont on se passerait parfois, comme ce député avant-hier qui venait à la rescousse de son patron sur l'histoire de l'anniversaire dont je vous parlais et qui déclare: en quelque sorte, il a été pris en embuscade par un gâteau.
Eh bien, dites-moi. Anne-Elisabeth Moutet, ce qui est grave, est-ce que c'est d'enfreindre les règles ou est-ce que c'est de mentir? Qu'est-ce qui fait le plus de mal aux Britanniques?
Alors, normalement, ça serait de mentir. Mais comme Boris s'est déjà décompté, si on peut dire, dès le départ, les gens ont élu Boris, sachant que c'était quelqu'un qui avait une relation intéressante avec la vérité. Et donc, dans son cas, c'est le fait qu'il soit incapable de savoir ce par quoi passaient les citoyens ordinaires. C'est ça le vrai problème, parce que justement, il a réussi à gagner près de 80 sièges d'avance avec une bonne partie de ce qu'on appelait le mur rouge, comme on a eu une fois, autrefois, la banlieue rouge autour de Paris, qui est passé conservateur alors que c'était des gens qui votaient travaillistes depuis plus d'un siècle. Et ça voulait dire, Boris, malgré tout, avec tous ses défauts, c'est quelqu'un qui nous comprend. Mais s'il cesse de comprendre le peuple, alors là, il a perdu une énorme qualité qui, jusqu'ici, envers et contre tout ce qu'on pouvait percevoir, envers son parcours personnel, qui est une public school, Eton et Oxford, tout ça, on pensait qu'il était capable de parler à l'homme de la rue. Et là, l'homme de la rue dit, mais il rêve ou quoi?
Mais justement, le sentiment que j'ai, moi, en vous écoutant, Anne-Elisabeth Moutet, c'est que précisément tout ce côté non conventionnel et même foutraque, qui a plu aux Anglais à ce moment, à un moment. Là, il est en train de, ils sont en train de lui dire, non mais c'est bon, faudrait peut-être pas exagérer non plus, en fait, y compris dans le côté dépenaillé de ce Premier ministre.
Non, le côté dépenaillé, alors ça, c'est pas vraiment un problème. C'est un style britannique qui est entièrement que les Français ne comprennent absolument pas. Ils trouvent que les Français, en particulier les hommes français, sont trop bien léchés. En revanche, c'est un argument de classe. Mm-hmm. C'est vraiment des gens de la haute bourgeoisie et de l'aristocratie qui sont comme ça à l'école et qui gardent ces habitudes. Mais le côté dépenaillé, tout le monde s'en fiche.
On sait bien qu'il balance tout à la presse et qu'il veut la tête de Johnson. Ça, c'est très clair, non? Anne-Elisabeth Moutet.
Alors oui, c'est le Patrick Buisson de Boris Johnson, ouais. C'est Dominic Cummings qui est un type extraordinairement intelligent, il est aussi d'une capacité de rancune immense, il a lui-même enfreint les protocoles sanitaires d'une manière extraordinaire en traversant tout le pays en voiture avec sa femme et son enfant, et ensuite en prenant en se promenant dans le nord en faisant une promenade dans un château et ensuite en racontant des craques pas possible, en disant ah mais j'ai conduit pendant 30 km pour savoir si mes yeux marchaient bien, alors c'est absolument terrifiant. Et Dominic Cummings a donc fini par être viré, puis il avait commencé à déplaire à Boris, parce qu'en gros, Cummings disait, avec de plus en plus ça s'entendait de plus en plus, écoutez, le cerveau c'est moi, c'est pas Johnson est ma marionnette, ça ne plaît à personne, et donc il a été viré. Ayant été viré, il a commencé, ça dure depuis un an, plus d'un an, à lâcher des trucs avec du venin. Alors à la différence de Buisson, il n'avait pas enregistré au magnétophone, mais pour tout le reste, c'est exactement la même technique.
Fort de tout ce que vous nous dites, et effectivement on a bien compris que c'était les conservateurs surtout qui étaient le plus en colère contre Boris Johnson, qu'est-ce qui retient encore ceux qui ne voteront pas son départ le cas échéant?
Alors je voudrais quand même dire que les travaillistes sont très mécontents aussi, et les libéraux démocrates aussi. Il a tout le monde contre lui. Ceux qui vont rester avec Boris Johnson, comment est-ce qu'on fait partir le leader du parti? Puisque le leader du parti est automatiquement nommé Premier ministre. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a fait partir Margaret Thatcher. Il faut que 54 députés envoient une lettre à ce qu'on appelle le comité 1922, qui est le comité des députés de base. Et à 54, on a alors un vote de non-confiance qui marche ou qui ne passe pas à la Chambre. C'est aussi une question intéressante. Mais ça veut dire que essentiellement, c'est la base qui peut virer le chef. Il faut qu'il y en ait suffisamment pour le demander. Il y a une partie de la base qui pense que oui, le chef a tous les défauts du monde et oui, il a perdu des partiels, mais il y a personne d'autre pour le remplacer qui est capable de gagner des élections comme lui. Il y a une série de candidats. Il y a le chancelier de l'échiquier, Rishi Sunak, qui se calme, qui a soutenu Boris du bout des lèvres, mais dont il se susurre à Londres, et c'est peut-être pas vrai, qu'il a au moins assisté à une de ces fameuses soirées, auquel cas c'est pas encore sorti dans la presse, et les gens se disent, mais tant qu'on n'a pas la preuve, on peut pas le savoir. Il y a la ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, mais on la voit pas gagner, c'est pas Margaret Thatcher, et on la voit pas gagner des élections comme Boris Johnson. Il y a le chancelier du duché de Lancaster, qui est un rôle important, de sorte de secrétaire général du gouvernement, avec rôle au Conseil des ministres, Michael Gove, qui est un type très intelligent mais qui n'a pas le charisme, et donc une bonne partie des députés se disent tout de même oui, bah même il a plusieurs vies, c'est un chat comme vous disiez tout à l'heure, et donc on peut se débarrasser de Boris, mais ça veut pas dire que ça va nous faire gagner.
Et d'autant, Richard, c'est vers vous que je me tourne à nouveau, que s'il décide de voter, il va pas falloir se tromper, parce qu'il y a qu'une fenêtre de tir, il y en a pas deux.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que s'il déclenche un vote de défiance et s'il n'y parvienne pas, Boris Johnson, pendant un an, il est tranquille. Il n'y aura pas d'autre vote de défiance. Ça va durer une année complète. Et parmi ces députés, il y en a plein qui se posent la question aussi de, finalement, comme le disait Anne-Elisabeth Moutet, qui pourrait remplacer Boris Johnson? Il n'y a pas d'évidence. Et puis, il y a beaucoup de coups à prendre quand même. Il y a un Brexit à gérer qui est quand même pas simple. Il y a une inflation ici qui n'a jamais été aussi élevée dans les 30 dernières années actuellement dans le pays. Il y a une pandémie qui est a priori en train de se terminer, mais a priori seulement. Et puis, il y a ces élections locales au mois de mai qui peuvent, si les sondages restent ce qu'ils sont actuellement, peuvent être un naufrage pour le Parti conservateur. Celui qui prendrait le job de Boris Johnson aujourd'hui, il serait lui aussi, dès le début, dans la tempête.
On a bien compris, en attendant Anne-Elisabeth Moutet, qui se mettre en mode survie pour Boris Johnson, c'est donner un certain nombre de choses à ses administrés, donc on rase un peu gratis, notamment sur la levée des restrictions Covid. J'imagine bien que personne n'est dupe. Mais est-ce que ça marche? Est-ce que ça peut marcher? Ou est-ce que c'est un peu une technique de désespérer?
Alors, la chose qui vend Boris Johnson aux électeurs, c'est le fait que c'est quelqu'un qui est fondamentalement optimiste, c'est quelqu'un qui préfère que les gens soient heureux, c'est d'ailleurs même quelqu'un qui veut être aimé. Et les gens en ont assez en Grande-Bretagne des restrictions, ils les suivent, il n'y a pas du tout les manifestations d'ampleur que nous avons sur le continent européen, il n'y a pas que la France. Et donc, dans la mesure où le consensus sur le variant Omicron, c'est qu'il est extrêmement contagieux, mais il est moins létal, heureusement, que les autres. Et les Anglais ont été vaccinés au pas de course avant tout le monde. Ça devrait tout de même marcher.
Mais ça, c'est entendu par éventuellement le public, dont acte. Mais si ce sont les conservateurs en majorité qui veulent un moment se débarrasser de Boris Johnson, là, pour le coup, sur eux, ça n'a aucune prise, non ? Donc, est-ce que ça change vraiment quelque chose à l'avenir de Johnson ?
Il y a plusieurs choses sur le parti. Il y a une autre chose que Boris Johnson devrait faire, et ça, ce serait quelque chose d'assez important, parce qu'il sait, il y a un désamour d'une bonne partie de la base des députés, parce que il est devenu trop centriste. Il a brusquement, et tout ça, ce sont des priorités qui ont été décidées par sa femme. L'insistance sur la décarbonation, sur la COP26, sur la souffrance animale, sur toutes les choses qui sont pas mal, mais qui ne sont pas ce pourquoi le député de base ne vote. Il vote sur des choses plus basiques, sur le pouvoir d'achat, sur l'emploi, sur l'immigration, et il a aussi perdu une partie de ça. Si Boris donne des signes montrant qu'il va cesser d'être un peu woke et qu'il va recommencer à ressembler à qui il était au départ, ça, à mon avis, ça l'aidera beaucoup.
Un mot, Richard, juste avant de conclure.
Sur Boris Johnson, si vous remarquez, Anne-Elisabeth Moutet, depuis tout à l'heure, dit Boris.
Oui, c'est vrai.
C'est très symptomatique. Dans le pays, on l'appelle Boris. Ce qui montre la proximité qu'il a, même avec les gens qu'il déteste. Moi, j'en croise dans le pays régulièrement en reportage qui me disent, oui, il a fait n'importe quoi, Boris. On ne l'appelle pas Boris Johnson. Cette proximité, c'est ça qu'il a cassé finalement avec ses fêtes, puisqu'il a montré qu'il se croyait au-dessus des autres, au-dessus du peuple, au-dessus de ceux qui l'ont élu.
Et du coup, et en conclusion, Anne-Elisabeth Moutet, vous donnez des chances de survie à quel pourcentage à Boris?
Écoutez, ça dépend vraiment des résultats de l'enquête. Et donc, aujourd'hui, tout est suspendu. On peut dire 50-50. Si l'enquête est un peu défavorable ou s'il y a un poil de plus qu'on n'a pas encore su et qu'on apprend avec l'enquête, 30 pour qu'il reste et 70 pour qu'il parte.
Allez, on a noté ces chiffres. Anne-Elisabeth Moutet, éditorialiste au Daily Telegraph ici à Paris. Merci beaucoup, merci à vous Richard, et à très bientôt bien sûr.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde, et c'est dans les pays baltes qui voient le conflit potentiel entre les Russes et les Ukrainiens depuis un balcon filant très bien placé qui ne les rassure pas vraiment. Et puis la troupe habituelle qui vous emmène jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Logeni.
Los Angeles veut voir disparaître ses puits de pétrole très polluants. La ville interdit tout nouveau forage à partir d'aujourd'hui.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Angélique Boin, bonsoir.
Bonsoir, un rapport du Parlement européen sur l'ingérence de la Chine et de la Russie pour tenter de nous déstabiliser fait froid dans le dos.
Le monde d'après, Jean-Marc Four, bonsoir à vous Jean-Marc.
Bonsoir à tous, ce soir c'est rock'n'roll, le bras de fer entre Neil Young et Spotify, où l'enjeu majeur de la responsabilité des géants du numérique quant à la désinformation sur la pandémie.
A tout de suite tout le monde, le tour de la planète continue avec Pierce Faccini, The Damned and the Saved, dans Un jour dans le monde et sur France Inter. A tout de suite.
They went down to the river, found a riverbed dry. He down in the valley where the hummingbird cried. They went down to the shoreline in white rags and veils, and drew out in the sand element for the trail. The sins of the fathers, their whole world was done.
Du monde. Ce soir est aux portes de l'Europe avec en bruit de fond cette guerre dont on ignore si elle se déclenchera entre l'Ukraine et la Russie et qui provoque une tension, vous imaginez, dans les pays baltes, membres de l'Union européenne mais situés tout à côté de cette zone de conflit. Quel est le regard des habitants sur la situation ? C'est Fabrice Aubry qui raconte.
Ici, nous sommes au sein de l'Union européenne, mais la Lituanie garde naturellement beaucoup de souvenirs de l'URSS. À Vilnius, on trouve par exemple le musée du KGB, comme aussi beaucoup de statues de Lénine. Dans l'une des auberges de jeunesse de la ville, ça parle russe. On y rencontre des personnes venues de Moscou, du Kazakhstan ou de l'Ouzbékistan. Les frontières de l'Union européenne sont toutes proches. La Biélorussie est à peine une demi-heure de route et la Russie à environ 300 km. Mais lorsqu'on essaye d'évoquer le sujet brûlant de la région avec le risque de guerre entre l'Ukraine et la Russie et la proximité de ces pays avec la Lituanie, nos interlocuteurs se montrent assez gênés.
Oui, c'est une question complexe.
Arunas est responsable de cette auberge à Vilnius.
Je pense que la Lituanie a toujours été dans cette position entre la Russie et l'Europe. Il y a toujours eu des tensions, c'est vrai qu'il y en a peut-être un peu plus aujourd'hui. Mais je ne vois pas ça comme une menace, je pense que tout va bien se passer.
Difficile de faire parler les habitants de ce sujet géopolitique et c'est également ce que l'on constate à Riga, à 300 km. Nous sommes cette fois-ci en Lettonie, un autre pays balte, avec une forte communauté russe. Et les habitants de la ville semblent vouloir fuir la discussion lorsqu'on évoque le sujet.
Non, je n'en sais rien. Sur cette question, je n'en sais rien. Les questions sur la politique russe, ce n'est pas mes questions. Veuillez m'en excuser.
Certaines personnes ont-elles peur des intentions et de l'influence russe ? Ce n'est pas du tout ce que pense Christine, qui habite à Riga.
Non, depuis l'étranger, les gens ont l'impression qu'on est effrayés. Mais en réalité, c'est pas le cas, tout ça. C'est des foutaises. Ici, les gens ne pensent pas à la Biélorussie ou à la Russie ou à tous ces autres pays. Ils n'y pensent pas du tout parce que ça ne les intéresse pas. Les gens qui s'intéressent à la politique ne s'intéressent qu'à la politique lettonne. C'est un peu la même chose en Russie. Les gens s'imaginent qu'on est obsédé par eux, alors que ce n'est pas du tout le cas. Comme toujours, vous verrez des choses complètement dingues dans les médias. Mais en réalité, rien de tout cela ne se passe ici. Donc si tu veux voir le mal partout, tu le verras. Et si tu ne veux pas le voir, tu ne le verras pas.
Et en disant tout cela, Christine reconnaît aussi qu'une large partie de la population a gardé l'influence de l'ère soviétique.
Certaines personnes qui ont plus de 50-55 ans gardent parfois l'URSS en mémoire, et je peux les comprendre. Il y a beaucoup de gens qui ne jettent jamais rien, qui conservent tout à la maison. Parce qu'à l'époque de l'URSS, c'était comme ça, on ne savait pas quand on allait perdre quelque chose. Donc oui, effectivement, il y a encore beaucoup de personnes qui ont l'URSS en tête.
Beaucoup de personnes restent marquées par l'URSS dans ces pays baltes, membres de l'UE depuis 2004 et de la zone euro depuis 2015. Mais d'ailleurs, comment a été vécue l'arrivée récente de cette nouvelle monnaie ? Les réactions sont contrastées. Écoutez Olga, elle habite à Vilnius.
Pour moi, ça n'a pas été une bonne chose. Parce que le litas, c'était notre monnaie locale. C'était vraiment notre monnaie. Alors que l'euro, tout le monde l'a en Europe.
Was our.
Certains sont donc nostalgiques de leur ancienne devise. D'autres, comme Martha, voient plus le côté pratique de l'euro.
Je pense que c'est plus facile de voyager maintenant, parce qu'on n'est pas obligé de changer notre monnaie avec d'autres pays européens. Ça a été un grand changement pour nous. Et c'est vrai que ça facilite les choses aujourd'hui.
L'utilisation de l'euro avec l'aspect pratique et économique semble avoir conquis une partie des habitants. Et concernant le fait de faire partie de l'Union européenne, là encore, les avis sont partagés. Olga est assez perplexe sur le sujet.
C'est bien parce qu'on peut aller partout en Europe sans visa. Donc bien sûr, c'est mieux pour ma famille et moi. Mais vous savez, je ne vais pas très souvent ailleurs en Europe, à Paris. Donc finalement, pour moi, ce n'est pas très important.
Ce n'est pas si important de faire partie de l'Union européenne. Ça, c'est le point de vue d'Olga. Arunas, le responsable de notre auberge à Vilnius, lui reconnaît que l'aspect protecteur de l'Europe est important pour son pays dans le contexte actuel.
Oui, je pense que c'est mieux avec l'Europe. Peut-être qu'on serait dans la position de l'Ukraine s'il n'y avait pas l'Union européenne. Ou peut-être pas. Mais c'est normal que les gens qui regardent les infos tous les soirs aient peur. Il n'y a que des mauvaises nouvelles et surtout un peu de propagande.
Alors que la tension s'accroît en Ukraine, en Lituanie et en Lettonie, l'Union européenne est souvent perçue comme un rempart vis-à-vis de la Grande Russie tout proche.
Fabrice Aubry pour le reportage, merci beaucoup. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars et c'est Sébastien Logeni. Et là, nous sommes dans un hôpital du Costa Rica, Sébastien, visé hier par une manifestation d'anti-vax.
Oui, ça s'est passé dans un hôpital public de la ville d'Heredia. Des dizaines de personnes qui pénètrent de force dans l'établissement, s'opposant parfois violemment aux agents de sécurité, au personnel médical. Le but de ce raid organisé était de faire sortir un enfant de l'hôpital, un garçon de 6 ans hospitalisé quelques jours plus tôt pour une affection respiratoire et dont la vaccination avait été recommandée par les médecins, sauf que c'est une vaccination à laquelle s'opposaient les parents. On entend là la directrice de l'hôpital qui condamne, dit-elle, les violences de ce groupe d'antivax. Elle explique que l'enfant en question est toujours hospitalisé, qu'il ne pourra sortir que lorsque les services de pédiatrie et le service social de l'hôpital l'auront décidé. En attendant, 6 personnes ont été arrêtées, remises à la justice pour rébellion. La directrice de l'hôpital a reçu le soutien direct du président du Costa Rica qui s'engage, lui, à faire juger les rebelles. On découvre donc à l'occasion de cet incident la stratégie sanitaire particulièrement musclée de ce petit pays d'Amérique centrale face au Covid. Le Costa Rica est l'un des rares pays au monde, en effet, où la vaccination est obligatoire pour les enfants de 5 à 11 ans. Et si les parents s'y opposent, eh bien c'est l'aide à l'enfance qui prend le relais. Une obligation qui a provoqué ces dernières semaines plusieurs manifestations de parents devant l'Assemblée nationale en faveur de la liberté de choix.
C'est une décision historique qu'a pris hier la ville de Los Angeles.
Los Angeles, ses plages, ses stars, ses studios d'Hollywood, mais Los Angeles, c'est aussi ses puits de pétrole. Plus de 5000 puits de pétrole et de gaz sur son territoire, en plein quartier résidentiel, parfois près des écoles. Eh bien, hier, le conseil municipal de cette ville tentaculaire et très inégalitaire a décidé à l'unanimité d'interdire tout nouveau forage pétrolier. Cela fait des années que les ONG font pression et que les études sanitaires, environnementales se multiplient. Ces puits sont un vrai fléau dans les quartiers les plus populaires. On entend là le témoignage d'un jeune Afro-Américain qui a passé son enfance près de l'un des grands puits de pétrole de la ville. 500 000 d'habitants vivent à moins de 500 mètres d'un puits, dit-il, respirant les fumées toxiques comme du benzène, pouvant provoquer des affections respiratoires, des grossesses à risque ou des cancers. Or, 92% de cette population exposée est issue des minorités ethniques. Le conseil municipal de Los Angeles va même plus loin que la seule interdiction des nouveaux puits. La ville a demandé une étude visant à trouver des solutions pour faire disparaître les puits actuels dans les 20 ans à venir. Ceux qui sont rentabilisés seraient démantelés, mais là, c'est loin d'être gagné. Les exploitants pétroliers s'y opposent fermement, expliquant que les puits sont évidemment autant d'impôts pour la municipalité.
On termine, ça n'a rien à voir, en Cisjordanie, où une exposition Arafat fait polémique.
Une exposition intitulée « La Palestine et Yasser Arafat », inaugurée le week-end dernier à Ramallah par le Premier ministre de l'Autorité palestinienne en personne. L'exposition rassemble notamment 35 dessins, 35 caricatures, en réalité du chef historique de l'OLP, mort en 2004. Et ce sont ces caricatures qui, depuis quelques jours, suscitent sur les réseaux la colère des gardiens de la mémoire d'Arafat, estimant que, par exemple, grossir les traits, notamment le nez qu'il avait proéminent, de cette icône de la cause palestinienne était irrespectueux. Le Fatah, le parti d'origine d'Arafat, a même demandé une enquête. Le musée a eu beau tenter de défendre la liberté d'expression, expliquant qu'il ne s'agissait que du regard personnel de certains dessinateurs. Rien n'y a fait. Sous la pression, le musée Arafat a donc décidé de décrocher les dessins en question. Drôle de façon, toutefois, de célébrer la mémoire d'un défenseur du droit à l'autodétermination.
Sébastien Le Génie, merci beaucoup Sébastien. Je vous laisse partir avec Seu Jorge, Life on Mars. Ça vous dira quelque chose?
Ah bah oui, ça me dit quelque chose.
Cette petite version, allez.
Muitas vezes o coração não consegue compreender o que a mente não faz questão, nem tem forças para obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós. No infinito do céu azul pode ter vida em Marte. Então vem cá, me dá sua língua. Então vem, que quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida, meu bem. Vamos viver a vida, então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Seu futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós. O infinito do céu azul pode ter vida em Marte, então vem cá, me dá sua língua. Então vem, que eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida, meu bem. Vamos viver a vida, então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars.
La version de Seu Jorge de Life on Mars sur France Inter, direction Bruxelles, comme chaque jeudi.
France Inter.
Je suis venu vous parler de
l'European Union. Général.
Un jour dans le monde.
Angélique Boin, un rapport du Parlement européen pointe nos défaillances. Angélique, et défaillance, le mot est faible, face aux attaques russes et chinoises qui vivent à déstabiliser nos démocraties.
Oui, la commission spéciale sur l'ingérence étrangère et la désinformation créée en juin 2020 vient de conclure ses travaux. C'est 18 mois d'enquête, quelques 130 experts auditionnés et son constat est en effet particulièrement sévère. Les responsables gouvernementaux, y compris ceux qui sont directement concernés, ainsi que les opinions publiques européennes, vous et moi, Fabienne, font preuve d'un défaut flagrant de prise de conscience de la gravité de cette menace. Le rapport dénonce aussi nos lacunes en matière de législation et puis notre manque de coordination entre États européens. Cette commission d'enquête est présidée par l'eurodéputé français Raphaël Glucksmann.
Et cette ingérence, elle est multiple, Angélique, c'est un monstre à plusieurs têtes.
Ah ouais, quand on lit les 40 pages de ce rapport, on ne découvre évidemment pas le problème, hein, mais la liste des attaques, le détail fourni font tout de même froid dans le dos. Si l'on prend par exemple le paragraphe consacré aux interférences dans les élections démocratiques, des preuves solides montrent que des acteurs étrangers financent secrètement certains partis, est-il indiqué, généralement les partis eurosceptiques. Plus de 300 millions de dollars ont déjà été versés dans 33 pays par la Russie et la Chine, notamment dans la dernière décennie. Une centaine d'élections sont concernées, dont la moitié était organisé en Europe. Les eurodéputés se disent aussi préoccupés par le nombre d'universités, d'écoles, de centres culturels disséminés dans toute l'Union qui sont engagés dans des partenariats avec des entités chinoises. Ils citent les centres Confucius, rebaptisés récemment Centre pour l'éducation et la coopération linguistique. Il y en a environ 200 en Europe. Ils organisent, nous dit-on, le vol de connaissances scientifiques et un contrôle strict de ce qui est lié à la Chine dans le domaine de la recherche et de l'enseignement. Le rapport détaille aussi les cyberattaques, la manipulation de l'information sur les réseaux, les fabriques de clics, la promotion des escroqueries, l'espionnage, tous ces moyens utilisés donc pour déstabiliser nos démocraties. Et les plateformes en ligne sont qualifiées, Fabienne, d'outils bon marché et simples pour faciliter ces actes malveillants.
Eh bien, dites-moi, ce rapport évoque aussi, Angélique, la captation des élites. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien, c'est la reconversion de certains dirigeants européens, comme l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder, désormais associé au russe Gazprom. Le rapport cite aussi François Fillon, nommé membre du conseil d'administration de Zarubezhneft, un groupe pétrolier russe. Captation d'élite, hein, dans un but, là encore, bien précis, est-il expliqué.
Donc, il est urgent d'agir, c'est ce que disent les membres de cette commission, et ils publient une liste de recommandations.
Oui, il faut mettre tout en place toute une série d'outils, hein, pour protéger nos démocraties, explique Raphaël Glucksmann. Le rapport, hein, de la commission qu'il préside recommande par exemple une plus grande transparence sur le financement par des donateurs étrangers d'activités politiques ou universitaires, le renforcement de notre arsenal européen contre les cyberattaques, une meilleure coordination entre États. Il insiste aussi sur l'importance de développer l'éducation aux médias dans nos sociétés. Il défend le travail des journalistes. Il propose aussi un mécanisme de sanctions beaucoup plus efficaces sur les auteurs des attaques. Des recommandations dont certaines sont déjà sur les rails, hein, dans le cadre de législation en cours de négociation, mais sur lequel le Parlement européen entend bien peser. La loi sur la modération des contenus numériques, par exemple, hein, qui imposera, une fois votée, plus de responsabilités aux grandes plateformes pour contrer les dérives en termes de désinformation. Votée à ce stade uniquement par les eurodéputés de cette commission spéciale sur l'ingérence et la désinformation, ce rapport sera soumis à un vote, a priori en plénière en mars prochain à Strasbourg. La liste de ces recommandations atterrira alors sur le bureau de la Commission européenne.
Angélique Boin avec nous depuis Bruxelles. Merci beaucoup.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, ce soir, votre attention est attirée par un sujet apparemment éloigné de la géopolitique. Neil Young, le rocker, fait retirer tous ses titres de la plateforme Spotify, qu'il accuse de désinformation sur la pandémie. Cette histoire, pour vous, est très révélatrice d'enjeux majeurs de la société sur la liberté d'expression, sur la diffusion des contenus artistiques, sur le contrôle des géants du numérique, et c'est votre monde d'après.
Le bras de fer a duré moins de 48 heures. Donc d'un côté, l'un des plus grands noms de l'histoire de la musique pop-rock, l'américano-canadien Neil Young, 76 ans, 60 albums au compteur, dont le célébrissime Harvest. De l'autre, le podcast le plus diffusé au monde, oui au monde, le Joe Rogan Experience, un talk show qui parle d'arts martiaux, de racisme anti-blanc, de Covid. 11 millions d'abonnés sur la plateforme Spotify aux États-Unis. Rogan, 53 ans, est un anti-vax. Il a régulièrement exprimé ses doutes sur la vaccination. Il affirme avoir contracté le virus et s'être soigné à l'ivermectine, un médicament non reconnu par les agences de santé. Et dans son podcast de fin décembre, il a donné la parole à Robert Malone, conspirationniste notoire sur les vaccins. Avant-hier, Neil Young, alerté par une protestation officielle de 270 médecins américains, a donc publié une lettre ouverte sur son site personnel. Je vous la mets en lien. Elle appelle Spotify à choisir. C'est moi ou Rogan. Si vous voulez garder ma musique, vous enlevez Rogan. Eh bien, Spotify a choisi. Mm-hmm. Pas touche à Rogan, la star du podcast avec lequel la plateforme musicale a signé un contrat estimé à 100 millions de dollars. Résultat, Neil Young passe à l'acte. Ses titres sont en train, depuis ce matin, de disparaître du catalogue de Spotify.
Mais alors, c'est quoi l'argument de Spotify pour justifier sa décision?
C'est l'argument classique des géants du numérique. Le contenu, ce n'est pas notre problème. Nous ne sommes que des tuyaux des diffuseurs. La direction de la plateforme affirme regretter le choix de Neil Young, mais pas question de céder au chantage du musicien. Le patron de Spotify l'a déjà expliqué en fait l'an dernier. Il estime ne pas avoir de responsabilité éditoriale sur ce qu'il diffuse. Ponce Pilate, je m'en lave les mains. Alors, ça pouvait s'entendre tant que Spotify ne diffusait que de la musique, même si le leadership de ces quelques plateformes pose déjà en soi une question sur la capacité des artistes à maîtriser leur production. Mais bon, là, ça devient compliqué à justifier quand on se met à diffuser du débat avec des podcasts comme celui de Rogan. Et puis en plus, Spotify fait dans l'incohérence. La plateforme assume de ne pas avoir de politique officielle de lutte contre la désinformation, contrairement à Twitter, YouTube ou Facebook, mais ajoute avoir déjà supprimé quand même des milliers d'informations fausses sur la pandémie. Sauf que ça ne vaut pas pour Rogan. Bon, vous avez compris, là, cette fois, il y a trop d'argent en jeu. Autrement dit, un esprit de responsabilité à géométrie variable. Soit dit en passant, même quand ces géants du numérique affichent une politique volontariste sur la désinformation, les résultats concrets sont assez médiocres. Plusieurs études récentes démontrent que les théories du complot continuent de se balader sur YouTube ou sur Facebook parce que les fausses informations sont plus virales, plus séduisantes, on le sait, donc plus propagées par les algorithmes. Mm-hmm. Et aussi parce que les contrôles sont très insuffisants dans certaines langues, par exemple l'arabe ou le russe.
Donc il n'y a pas de solution, la partie est perdue, c'est ça ?
Elle n'est pas perdue, mais il y a quand même urgence. Pourquoi ? Parce que le sujet est en partie générationnel. Les plus jeunes d'entre nous s'informent d'abord sur les supports numériques. Moyenne d'âge des abonnés au podcast de Joe Rogan, 24 ans. Pas tout à fait le profil des fans de Neil Young. Et puis on est aussi bien sûr face au sujet de la défiance vis-à-vis des médias traditionnels. Les partisans des théories du complot vont écouter plus volontiers par exemple la chaîne YouTube de Didier Raoult que France Inter. La pandémie, on le sait, a démultiplié les fausses informations et elles circulent d'abord via Internet, même si quelques médias classiques s'en font aussi les porte-voix. Ces géants du numérique ne peuvent plus jouer les Ponce Pilate et les pouvoirs publics ne peuvent plus laisser faire. C'est un enjeu démocratique essentiel. Angélique Gouin en parlait à l'instant. Il faut contraindre ces plateformes à s'autoréguler et pouvoir les sanctionner si nécessaire, tout en préservant, bien sûr, la liberté d'expression. C'est l'objectif du projet assez avancé de règlement européen Digital Services Act. Neil Young a peut-être un petit côté vieux rocker ronchon, mais il est quand même très lucide. Voici ce qu'il écrit. Cette désinformation sur le Covid tue, c'est une menace vitale. Et dans le cas de ce podcast, ce sont des mensonges vendus contre de l'argent. Lies being sold for money.
Et en plus, malgré son âge, il n'a pas perdu la main.
On l'entendra plus sur Spotify, mais sur Inter.
On l'écoutera ailleurs. Sur Inter, il est parfait. Merci beaucoup, Jean-Marc Four. Le Monde d'après, bien sûr, c'est tous les soirs dans Un jour dans le monde. Pour nous, ça continue. Le 18-20, la suite, c'est le journal d'Hélène Philly. Et puis juste après, le téléphone sonne. À tout de suite.